Journal de Jérôme Cadet, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, faut-il surtaxer les livraisons de colis express? C'est l'une des pistes retenues par France Stratégie pour limiter la pollution du e-commerce. Détail des propositions à suivre. J'ai été flingué auprès du pape, la charge de Jean-Marc Sauvé, le président de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église, toujours pas reçu à Rome, après la publication de son rapport en octobre dernier. Nous serons au Burkina Faso, l'un des pays d'Afrique visé par un coup d'état militaire ces dernières semaines et confronté au terrorisme. La population approuve. Nous verrons que le service national universel pour les jeunes reprend du service. Le dispositif voulu par Emmanuel Macron peine à monter en puissance. Et puis quand l'homme d'affaires Bernard Arnault menace un journaliste qui enquête sur ses entreprises, c'est l'une des révélations du documentaire Media Crash qui sort en salle ce mercredi.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui, je vous le rappelle, l'essayiste directeur d'AM Conseil, Alain Minc. C'est la face sombre, Jérôme, du commerce en ligne.
Et de son explosion, plus 30% entre 2019 et 2020, l'impact sur l'environnement de ces livraisons de plus en plus nombreuses et de plus en plus polluantes, à tel point que France Stratégie, l'institution qui conseille le Premier ministre, vient de rendre un rapport sur la question. Il recommande de mieux réglementer les livraisons de colis à domicile et d'augmenter les tarifs. Sandy Dauphin l'a consulté pour nous.
Le consommateur ne s'en rend pas toujours compte, mais commander plusieurs tailles ou couleurs de vêtements sur Internet, les essayer chez soi et renvoyer les articles qui ne vont pas. Ça veut dire plus de camionnettes de livraison sur les routes, des émissions de CO2, des polluants et des bouchons en ville. Régine Breyer, membre du Conseil général du développement durable, qui a co-dirigé ce rapport.
Le premier problème, celui qui a le plus gros impact, ce sont les livraisons express. On arrive même à ce qu'on appelle la livraison instantanée, qui est la livraison en moins de 2 heures. Et ça, c'est quelque chose qui pèse énormément. Quand on demande un délai de livraison très court, les camionnettes circulent très peu remplies pour pouvoir respecter les délais.
Le rapport recommande de sensibiliser le consommateur en lui indiquant par exemple le bilan CO2 de son colis, mais aujourd'hui c'est très difficile à calculer. Il propose aussi d'interdire la mention « livraison gratuite » sur les sites d'achat en ligne et même de faire payer plus cher les livraisons express.
L'idée serait de faire payer les livraisons plus cher lorsqu'on demande un délai très court que quand on demande un délai plus long. Et pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer un vendeur qui prenne l'initiative de le faire tout seul. Il faut que la même règle s'applique à tout le monde. Pour réglementer, l'échelle idéale, évidemment, c'est l'échelle mondiale, mais à tout le moins l'échelle européenne.
Le rapport s'inquiète aussi des conditions sociales des livreurs soumis à une pression pour aller toujours plus vite.
Explication Sandy Dauphin. Faut-il surtaxer les livraisons express? Dossier à retrouver sur franceinter.fr. 4 mois et demi qu'il a remis son rapport sur les abus sexuels dans l'église et Jean-Marc Sauvé n'a toujours pas été reçu par le pape. Une première audience avec François était prévue en décembre dernier, reportée et depuis plus rien. Alors faut-il faire un lien avec les sévères critiques qui émanent d'une partie de l'église? Celle par exemple de l'Association catholique de France qui remet en cause le nombre de victimes, 330 000 selon l'évaluation de la CIAZ. Ce matin, Jean-Marc Sauvé réplique sur Inter. Selon lui, une minorité discrédite son travail auprès de Rome.
Ce qui me chagrine, c'est d'avoir été flingué auprès du pape par une doctrine qui est aux antipodes de celle du pape sur des points fondamentaux, comme la réparation qui est due aux victimes, comme la critique de l'entre-soi et comme la vigilance à l'égard des dévoiements de l'autorité du prêtre. Il y a une toute petite minorité qui nous attaque et qui nous attaque de manière venimeuse, c'est l'Académie catholique de France. Nos détracteurs sont dans le déni, mais soyons extrêmement clairs. Il n'y a aucun doute sur le fait que le nombre des victimes s'évalue en centaines de milliers. Et s'il y a des corrections, il est beaucoup plus probable que ces corrections s'effectueront à la hausse qu'à la baisse. Et comme à notre niveau, en France, notre rapport a été suivi des faits. La rencontre avec le pape serait une reconnaissance supplémentaire, bien sûr.
Jean-Marc Sauvé avec Cécilia Arbona, l'Église de France, qui n'a rien oublié de ce 26 juillet 2016. Deux djihadistes pénètrent dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, au sud de Rouen, et égorgent le père Jacques Hamel en pleine messe. Un fidèle lui est grièvement blessé. Il survivra. Le procès de cet assassinat s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris, les deux terroristes tués. Ce sont trois complices présumés qui sont jugés. Un quatrième accusé, soupçonné d'être l'instigateur de l'attentat, lui est absent. Il serait mort en Irak en 2017. La lutte contre le terrorisme qui se mène en ce moment au Sahel. Samedi, l'armée française annonçait avoir tué 40 djihadistes au Burkina Faso. Ils seraient impliqués dans des attaques au nord du Bénin. Le Burkina, pays où le gouvernement élu démocratiquement a été renversé il y a 3 semaines, le chef de la junte militaire sera investi cette semaine à la tête de l'État avec l'assentiment de la population. Reportage sur place à Ouagadougou, Gilles Gallinaro et Claude Guibal.
Au bord de la route, une vendeuse de pagne chante. Difficile d'imaginer il y a 3 semaines les tirs, les hélicoptères, la peur sur Ouagadougou, jusqu'à l'annonce de la prise du pouvoir par une junte de jeunes officiers. Une annonce qui a soulagé Arnaud, assis sur le trottoir en face.
Tôt ou tard, ça devait arriver. Le peuple attendait un truc de ces gens. L'insécurité, on assistait à des embuscades, des morts passés, des réfugiés. Donc ça inquiétait vraiment tout le monde.
Ce soulagement, Soumaïla l'a aussi partagé après des mois de colère, alors que le président déchu, Rochmark Kabore, était jugé incapable de gérer la menace terroriste.
Si tu es un père de famille ou bien une mère de famille, on vient te dire que ton fils est mort, que toute ta famille au village est mort. Ça veut dire, quand on veut faire ton arbre généalogique là, il n'y a plus rien, tu es le seul.
Plus 1,5 million de Burkinabés a dû fuir devant les attaques, perdant terre, bétail, travail.
Il y a des femmes qui se prostituent à moins de 500 francs. Ça veut dire moins d'1 euro. Si c'est les enfants, c'est la délinquance juvénile. Donc, c'est pas qu'on loue le coup d'État, mais c'est la bienvenue.
La transition du pouvoir au civil viendra en son temps, disent-ils, résumant leur unique priorité, le retour à la sécurité, à tout prix. À Ouagadougou, Gilles Gallinaro, Claude Guibal, France Inter.
Au Mali voisin, les forces françaises sont jugées indésirables par les militaires au pouvoir. Emmanuel Macron pourrait annoncer le retrait des militaires français du pays à l'occasion du sommet Union européenne-Afrique qui se déroule cette semaine à Bruxelles. L'Union européenne qui abat une nouvelle carte dans la crise en Ukraine après Emmanuel Macron la semaine dernière. C'est au tour du chancelier allemand Olaf Scholz de se rendre à Kiev aujourd'hui avant d'aller à Moscou demain.
France Inter, il est 7h36. Toujours très critiqué, le service national universel est de retour.
50 000 jeunes vont participer cette année à ces séjours de cohésion. 47 000 en juin-juillet, mais 3 000 dès cette semaine. Alors 50 000, c'est en dessous des objectifs du gouvernement, mais la crise sanitaire est passée par là. Le SNU, lancé en 2019, vise toujours à sensibiliser la jeunesse à la notion d'engagement, mais la question de son avenir après la présidentielle se pose, Claire Chaudière.
Hébergement en centre et levée des couleurs chaque matin, les fondamentaux demeurent, même si certains modules, notamment autour des fake news et de l'écologie, évoluent cette année. Quant à la généralisation à toute une classe d'âge, cela reste l'objectif, assure inlassablement l'exécutif, bien en peine pourtant de donner un horizon précis. Car la montée en puissance du SNU a pris du retard et le sujet divise. En coulisses, des travaux parlementaires ont été lancés. Côté LR, on estime que la majorité s'est enferrée dans une promesse en réalité intenable et infinançable. Il faut faire réatterrir le projet au sein de l'école. Une semaine par an, propose-t-on, consacrée à la citoyenneté tout au long du collège, pour en finir avec ce qui ressemble davantage aujourd'hui à un objet de communication. Certains allant même jusqu'à s'interroger sur la raison de ce séjour de cohésion, avancé au mois de février, à quelques semaines de la présidentielle. Rien à voir, c'est une question d'organisation, répond l'entourage du gouvernement. Quant au coût, il reste, dit-on, maîtrisé, 110 millions d'euros pour 2022.
Les opposants aux mesures sanitaires du gouvernement, eux, s'interrogent. 1300 véhicules rassemblés dans le convoi dit de la liberté à Lille depuis hier. Doivent-ils converger vers Bruxelles comme prévu ou prendre la direction de Strasbourg car l'accès à la capitale belge leur est interdit. Un couple en or, un jour de Saint-Valentin, quoi de plus logique, les Français Guillaume Cizeron et Gabriela Papadakis, sacrés champions olympiques de danse sur glace à Pékin très tôt ce matin. Une première dans cette discipline pour des Français depuis 20 ans. Des jeux au goût amer pour tous les opposants au régime chinois, comme les révoltés de Hong Kong. Leur mouvement des parapluies avait défendu leur autonomie face à Pékin en 2014. Beaucoup vivent désormais en exil, comme Nathan Lowe, réfugié politique à Londres. Richard Place l'a rencontré.
Un visage de gamin est déjà 10 ans qu'il lutte pour la liberté dans son pays, dans sa ville, Hong Kong, dont il parle avec nostalgie dans un parc londonien. Il rêve de retrouver ses amis et leurs discussions autour d'un dîner, tout ce qui fait l'existence normale d'un étudiant, celle que Pékin lui a volée. Aujourd'hui, dans la capitale anglaise, il mène la lutte différemment et les JO ne font pas partie de son programme.
Je ne regarde pas ces Jeux d'hiver pour ne pas dérouler le tapis rouge aux autorités chinoises.
Sa cible, c'est bien le régime chinois, celui qui oppresse à Hong Kong, mais aussi dans le Xinjiang, cette région où le pouvoir a installé des camps de travail pour la communauté ouïghour. Le monde entier le sait, relève Nathan Lowe, et la manière dont la Chine est perçue a changé, selon lui. Il se souvient des Jeux olympiques de Pékin de 2008, cette fois.
Le monde entier leur rendait hommage. À l'époque, on espérait que la Chine s'améliore dans le domaine des libertés individuelles. Rien de tout ça n'est arrivé. La situation des droits de l'homme est encore pire. Les gens se souviendront de cette différence flagrante entre ces deux Jeux olympiques de Pékin.
En exil, Nathan Lowe ne cesse de critiquer le régime chinois. Il donne des conférences, vient de sortir un livre, entretient le contact avec ses amis restés là-bas, prudemment, car il se sait surveiller. Londres, Richard Place, France Inter.
L'interview de Nathan Lowe en longueur à retrouver sur franceinter.fr.
Et une nouvelle alerte, il est 7h40, Jérôme, nouvelle alerte sur la concentration des médias en France.
Sous la forme d'un film documentaire qui sort en salle ce mercredi, son titre « Média crash, qui a tué le débat public ?» L'enquête coproduite par Mediapart, s'intéresse au rachat de médias privés par des milliardaires comme Vincent Bolloré ou Bernard Arnault et met en lumière leurs pratiques, Victor Vasseur.
Mediacrash s'aventure dans l'arrière-cuisine de Vincent Bolloré, le grand patron de CNews et Europe 1.
Enquêter sur Bolloré en Afrique, c'est d'abord se confronter à un mur de silence.
Le documentaire raconte par exemple les déboires du journal Le Monde, privé de publicité pendant 2 ans par le groupe Havas, propriété de Bolloré, à cause d'une enquête qui ne lui a pas plu, un manque à gagner estimé à 12 millions d'euros pour le journal en 2 ans. Mediacrash révèle aussi cet échange sidérant entre un journaliste de France 2 et la première fortune du pays, Bernard Arnault, patron du Parisien. Et des échos, embarrassé par les questions, finit par menacer le journaliste en l'accusant d'avoir donné de l'argent pour obtenir des témoignages.
Écoutez, vous ferez mieux de vérifier parce qu'on a des preuves. Hein, vous ferez mieux de faire attention parce
J'aimerais bien savoir.
Je ne veux rien de plus. Allez, je m'en vais, j'en ai marre.
Bernard Arnault va même porter plainte et le journaliste Tristan Walex sera convoqué par la police. Ce n'est pas un film de cinéma, préviennent les réalisateurs. C'est un documentaire d'enquête, d'interpellation qui a sa place au cinéma, l'un des derniers lieux de débat selon eux. La distribution du film est limitée, mais des dizaines de projections débat seront organisées un peu partout en France.
Et les deux réalisateurs de Mediacrash, Luc Herman et Valentine Auberti, sont les invités ce matin de l'Instant M.
Merci Jérôme Cadet. L'édito politique à suivre.